Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadgets. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech. On vous parle de toute l'actu tech, on parle de tech, d'internet, de gadgets et aujourd'hui plus particulièrement, on va vous parler de plein de choses. Et on va pas prioriser, oui, c'est un mot français, les GAFAM, pour une fois. Bon, on va quand même vous parler un petit peu des GAFAM, mais en deuxième partie d'émission, d'abord, on va vous donner des infos qui n'ont rien à voir avec les géants de l'Internet qui nous pompent les données. Bon, il y aura quand même quelques grands de l'Internet, mais pas les géants. On laissera Google, Apple, Amazon, tout ça pour la suite. On va vous parler de trucs vraiment intéressants pour une fois. Et je vais vous présenter les deux co-animateurs qui sont là pour le faire avec moi. Avant tout, moi, je suis Patrick Béja. Je suis très heureux de vous recevoir encore une fois dans cette émission. Et donc, les co-animateurs, il y a d'un côté Cédric Ingrand, journaliste, je dis souvent émérite, mais on m'a appris que émérite, c'était qui n'exerçait plus.
Et oui, c'est donc... ça. C'est un titre un peu fictif. C'est un truc purement honorifique.
Je crois du coup que...
Bon, docteur honoris causa. Moi, je suis docteur. C'est-à-dire que j'exerce.
Donc, docteur Ingrand, merci d'être avec nous dans cet épisode. De l'autre côté, on a Gaël Girardot qui nous rejoint de coude.fr, encore une fois. Bonjour Gaël, ça va ?
Bonjour Patrick, très bien, merci. Et toi ?
Je ne sais pas si tu es docteur, toi. Moi, je ne suis pas docteur, il n'y a
tout.
Que Cédric.
Okay.
Non, mais elle exerce aussi.
Mais oui, on a c'est compris. Mais non, Cédric, tu es docteur à partir de maintenant, docteur Ingrand. Pas de souci.
Non. Moi, j'ai eu plein de médecins dans ma famille, hein, donc c'est un truc que j'ai choisi de pas suivre.
D'accord, tu as trahi la tradition familiale en devenant spécialiste tech, je comprends.
Ouais, c'est ça. J'aurais dû faire médecin ou prof et j'ai fait ni l'un ni l'autre. J'ai choisi de ne pas faire un vrai métier.
Je sais pas si c'est bien ou pas bien. Moi, j'en suis content en tout cas. Donc, merci à toi et merci à toi, Gaël, également, d'être avec nous aujourd'hui. Comme je le disais, on a des informations assez intéressantes, mais qui vont être un petit peu de all over the place, comme on dit en anglais. On n'aime pas quand je fais des anglicismes, donc je vais dire qu'ils vont venir d'un petit peu partout. On va aller picorer des informations sympas de plein d'endroits différents. On va parler de 5G, on va parler de TikTok, on va parler de, évidemment, trottinette électrique, parce qu'il semble qu'il n'y a pas un épisode sans qu'on parle de trottinette électrique, de clavier AZERTY amélioré, et plein de choses comme ça. Et commençons donc avec la 5G et trois entités qui se battent pour essayer d'obtenir le titre de plus grande, enfin de première implémentation de la 5G au monde, à savoir d'une part aux États-Unis AT&T et Verizon, et surtout en Corée du Sud, l'ensemble du pays qui a activé la 5G ces derniers jours. Alors, c'était marrant parce que la Corée du Sud devait lancer la 5G avec tous ses opérateurs. Je crois que c'était vendredi dernier ou jeudi dernier. Et la veille, Verizon, l'opérateur américain, a lancé la 5G dans une petite partie, je crois que c'était à Chicago, une petite partie de Chicago. Et donc, ils ont dit « Non, non, c'est nous qui avons lancé la 5G en premier. » Et à côté de ça, AT&T avait aussi lancé la 5G de manière très limitée, mais une 5G qui n'est pas vraiment la 5G, qui est une 4G améliorée, qu'ils ont décidé d'appeler 5G, et ils ont donc dit, oui, nous aussi, on fait de la 5G. Peut-être qu'ils ont aussi genre une borne de 5G dans tous les États-Unis.
Dans le pâté de maison de la maison du patron.
C'est ça, exactement. Bon, ce qui est intéressant dans tout ça, c'est d'une part les enjeux de la 5G dont on a parlé régulièrement ici, mais il y a aussi un test de 5G effective qu'a fait à Chicago Chris Welch, un journaliste de The Verge, pour voir ce que ça donne. Et les vitesses sont effectivement importantes puisqu'on est de l'ordre de 500 mégabits par seconde en descendant et de 30 mégabits par seconde en montant. Alors évidemment, c'est des conditions particulières parce que c'est un réseau qui est assez clean, il y a très peu de téléphones qui,
y a personne.
Qui font ça, c'est ça. Mais c'est marrant de voir tous ces opérateurs et même ces pays se battre pour dire on est les premiers. la 5G, c'est quand même important. Ça reste une évolution importante.
C'est important, mais est-ce que c'est important au point de faire comme AT&T, c'est-à-dire, tu vois, rebadger de la 4G+, en disant « Ouais, ouais, c'est de la 5G, je vous promets. » En plus, c'est ils sont récidivistes. Ils avaient fait la même chose avec
la 3G,
en faisant du HSUPA, je ne sais plus quoi, et en disant « Non, c'est de la 4G, je vous promets, regardez, c'est marqué sur le téléphone. » C'est un peu ridicule. C'est quand même un peu ridicule dans l'ensemble, surtout que la vraie 5G, elle te promet quand même des vitesses d'upload qui seront bien au-delà de 30 mégabits. Et en plus, ça, là encore, ça ne concerne que 4 personnes dans quelques pâtés de maison. Je schématise, mais c'est toujours rigolo d'être dans les premiers à expérimenter ce genre de choses. C'est juste décevant quand ça devient vraiment la norme. Moi, je me souviens, j'avais l'un des tout premiers téléphones 4G en test qui était un Nokia sous Windows Phone. Et il se trouve que je m'étais retrouvé par hasard, enfin pas par hasard, mais à Roubaix avec le téléphone. Et vraiment, une terrasse de café, je prends le téléphone et je vois « 4G !» Alors là, tout à coup, j'ai tout lancé, les speed tests, etc., etc. Et c'était merveilleux, c'était exactement comme le cas de notre camarade de The Verge à Chicago, c'est-à-dire qu'est-ce que ça va vite ? Bah oui, chérie, t'es tout seul sur la borne. Évidemment,
oui, surtout que la borne est fibrée, il y a de la 5G, et puis il y a quasiment aucun téléphone qui font de la 5G aujourd'hui.
Voilà.
On est dans le cas où il a dû trouver son Moto Z3, qui est sans doute l'un des deux ou trois téléphones, peut-être même le seul, qui fait de la 5G aux États-Unis. Donc, mais bon, on parle de à un ou deux ans, ça sera bien sûr beaucoup plus présent. Mais je sais pas si c'est
pas, puis c'est pas fait chez nous, parce que même chez nous c'est pas une question de technique, tu vois, la mise aux enchères des fréquences de la 5G pour les opérateurs chez nous, ce sera cet été, et ça peut prendre du temps. On est en train de voir ce qui se passe chez les Allemands, où ils en sont, ils ont dépassé, je crois, le 150e tour d'enchères. Ils en sont à 4 milliards, enfin c'est assez terrifiant quand même. Voilà, il est urgent de se hâter avec lenteur, j'ai envie de dire.
Il y a un autre souci aussi, c'est que la 5G, le réseau étant de moins grande portée que le réseau 4G, certains types de 5G, mais dans les grandes villes, là où il va falloir avoir beaucoup d'appareils, il faut quand même rajouter beaucoup d'antennes.
Alors, il y a deux jambes à l'équipement des réseaux. Il y a, on va dire, la 5G qui va remplacer la 4G, en gros, c'est-à-dire que les choses que tu vas poser sur ou à la place des équipements 4G existants et qui auront la même portée et un débit bien supérieur. Et il y a une nouvelle chose que permet la 5G, c'est mettre des bornes qui sont sur d'autres bandes de fréquences qui vont, et là c'est lié à ces fréquences qu'on appelle des fréquences millimétriques, qui vont beaucoup moins loin, mais qui pourrait offrir un débit et une capacité bien supérieure. Je m'explique, au lieu de te dire, bah, écoute, on a une bonne antenne 5G qui couvre le Stade de France, ça devrait suffire, là tout à coup, ça suffit les jours où il n'y a rien au Stade de France, en gros, là tout à coup, tu pourrais poser ces plus petites antennes qui iront beaucoup moins loin, hein, de l'ordre
c'est
de quelques centaines de mètres.
À forte densité, oui. Mmh.
Voilà, mais tout à coup, qui pourrait servir beaucoup plus de monde avec de beaucoup plus gros débits, ou à terme, mais là, on est parfois un peu dans le fantasme, arriver à servir des quartiers qui sont mal desservis par l'Internet fixe. Mais en même temps, on a envie de se dire, si tu mets des bornes qui n'ont que quelques centaines de mètres de portée et qu'il faut que tu tires de la grosse fibre jusque-là, pourquoi tu ne la tirerais pas jusqu'à l'immeuble d'à côté, ta fibre ?
Une antenne 5G, ça peut ouvrir un immeuble. Si les fibres, il faut installer dans chaque appartement. Mais bon.
Donc il n'y a pas d'inquiétude sur le fait. Il va pas falloir multiplier les antennes 5G pour arriver à faire ce qu'on fait avec la 4G aujourd'hui.
J'ai vu aussi des informations sur le Wi-Fi 6 qui changent beaucoup de choses et qui sont hyper intéressantes. D'ailleurs, on en reparlera peut-être à un moment. Gaël, je ne sais pas si c'est un truc qui te plaît particulièrement, la 5G, ou c'est le genre de choses dont tu n'as pas grand-chose à faire.
Je rêve de la 5G pour plus tard, mais j'ai envie de te dire, à date, moi je vais chez l'opérateur qui me dit « je ne suis pas le premier à avoir la 5G, mais je suis le premier à vous garantir la 4G partout
ouais. ».
Et après on verra pour la 5G, mais je préfère avoir de la couverture un peu partout plutôt que quelqu'un qui me dit « je suis le premier à avoir la 5G ». En tant que consommateur, c'est pas ça qui me... Donc je comprends pas bien cette bataille de dire « je suis le premier ».
C'est un truc de petit garçon, hein.
C'est ça.
On se la mesure sous la...
C'est pour ça que je ne comprends pas bien.
Bon, c'est vrai qu'en plus, pour la plupart des usages, et sans doute pour un moment, à moins qu'on en trouve de nouveaux, il y a beaucoup de gens qui parlent de usages avec faible latence, des trucs comme les véhicules autonomes, ce genre de choses, ou peut-être d'autres usages qu'on inventera. Bon, la 5G, ça ne va pas changer énormément par rapport à la 4G pour l'utilisateur final, si ce n'est que dans certains cas, dans des zones à forte densité, ben la 5G marchera mieux que la 4G, mais ce n'est pas que en passant de 40 mégabits par seconde à 400, ça va changer votre vie quand vous naviguez sur Twitter ou sur le web, quoi.
Non.
Il y a des chercheurs qui ont fait un truc assez intéressant et en même temps inquiétant dans des centres médicaux. En fait, ils ont créé des malwares qu'ils ont mis sur des équipements de radiologie qui ont inséré des fausses images de zones cancéreuses sur des scans utilisés par des radiologues. Et c'est évidemment un profil d'attaque qui pourrait être utilisé dans des hôpitaux. Et ça c'est une preuve de concept, en quelque sorte, que les chercheurs ont fait pour montrer de quelle manière, si les équipements de ce type sont mal sécurisés, on peut faire des disruptions massives dans les infrastructures d'un pays. Là, on parle sans doute d'attaques d'ampleur pour un pays envers un autre. Mais c'est très intéressant de voir de quelle manière on pourrait attaquer l'infrastructure d'un pays. On parle souvent de choses comme les centrales électriques, les centrales de purification d'eau, etc. Là, c'est autre chose encore. Et j'imagine qu'on se rendrait compte qu'il y a un truc bizarre si un scan sur deux vous retourne un résultat positif sur un cancer. Ouais. Mais il n'empêche que du coup, ça provoque un chaos significatif, quoi.
C'est intéressant. Je comprends pas quel était le but exact de la manœuvre, sauf de montrer que c'était possible. Mais oui, de fait, c'est-à-dire que le radiologue qui tout à coup se retrouve uniquement face à des tomographies positives, il va se gratter la tête. Et surtout, si on passe au stade suivant, le chirurgien, une fois qu'il aura ouvert, va lui dire, chérie, je sais pas ce que t'as vu, mais y a rien là.
Bah, c'est ça, parce que si tout à coup tous les scans se mettent à révéler des cancers, on s'en rend compte tout de suite. Mais s'il y en a, je ne sais pas, ils en rajoutent un sur 100 scans, ça peut provoquer... Là, ça serait vraiment... Ah ouais. Ça devient méchant de James Bond, quoi. Ça devient vraiment semer le chaos.
Mais en termes de cyber-disruption, tu vois ce que je veux dire, y a peut-être plus efficace. Mais le fait que ce soit possible, oui, il pose des questions. Parce qu'évidemment... Non, mais c'est intéressant parce que toutes ces machines-là sont des choses qui sont faites d'abord pour fonctionner à 100% tout le temps. C'est-à-dire qu'un scanner, ça coûte tellement cher qu'il faut le rentabiliser. Et puis, se pose évidemment la question de la fiabilité des données, de la sécurité des données, à un moment où on a quand même dans l'ensemble envie de faire en sorte que toutes ces données soient accessibles. C'est-à-dire que quand il m'arrive d'emmener un de mes enfants aux urgences, pour l'instant, j'ai de la chance parce que c'est l'hôpital qui est de l'autre côté de la rue où ils sont tous nés. Donc, tu vas récupérer leur dossier, pas quelque chose de très compliqué. Mais c'est vrai que tu t'aimerais pouvoir faire la même chose dans n'importe quel hôpital et tout à coup qu'on dise ouais c'est bon, on a la radio de ça, la consultation d'il y a 2 ans, les analyses de voilà.
Et là ça ouvre aux problématiques qu'on connaît tous dans l'informatique de sécurisation des systèmes, etc.
Exactement.
Et tu pourrais imaginer carrément l'inverse aussi, c'est de te dire si on peut insérer quelque chose, ça veut dire peut-être aussi que tu peux enlever effectivement, et c'est qu'on ne verrait pas des cancers s'il y avait des pirates, et on pourrait imaginer pour le coup une attaque terroriste, moi je vais très loin, une attaque terroriste qui nous rend tous malades, sauf qu'on ne verrait rien au scan.
J'ai même pas pensé à ça, t'as tout à fait raison. Et puis bon, les cancers c'est sur le très long terme, mais on pourrait imaginer effectivement des attaques terroristes, voilà, sur d'autres type de test. Bon, du coup, j'étais un petit peu peur et à moitié amusé de celle-là. Là, tout à coup, tu me fais vraiment peur, Gaël. Merci beaucoup.
Un truc qui arriverait à te montrer des fausses images d'une échographie cardiaque d'un marathonien, tu vois, à la place de ton patient de 76 ans. Oui, c'est vrai. Non, monsieur, je vous promets, vous allez très bien. Bon, là, vous êtes un peu bleu. Je ne m'explique pas pourquoi, mais les images, la machine est formelle.
C'est ça. Ou même des tests de, je sais pas moi, de grippe ou de maladies plus bénignes, quoi, qui pour le coup, c'est
Mais là, tu fais pas beaucoup d'imagerie.
Non, bien sûr, mais je veux dire...
Ah, des analyses.
Oui, des analyses, tout bêtement. Ouais. S'il y a des analyses qui passent par les ordinateurs, et à la limite, on n'a même pas forcément besoin de pervertir l'analyse elle-même, mais le système informatique qui comptabilise ou qui transmet ces informations, s'il est attaqué... Oui, bon, bref, parlons plutôt de Netflix, ça va nous détendre un petit peu. C'est intéressant, on avait tous parlé de Steven Spielberg qui voulait que Netflix n'ait plus accès à la compétition des Oscars, parce que selon lui, le fait de passer un film dans une centaine de salles, on parle beaucoup de Roma, hein, qui a obtenu l'Oscar du meilleur film. Spielberg ne voulait pas que un film qui soit produit par une entre guillemets chaîne de télé ou de streaming puisse avoir accès aux Oscars, parce que ça n'était pas un vrai film qui était passé dans les salles. Alors en France, on a bien sûr ce même problème en décuplé, parce qu'on a toutes les questions de chronologie des médias, et on pourrait débattre pendant des heures de la nécessité de cette chronologie pour sauvegarder l'industrie du cinéma telle qu'elle existait depuis longtemps et telle qu'elle existe encore aujourd'hui. Aujourd'hui, il y aurait tout un tas de choses à dire là-dessus, mais ce qui s'est passé aux États-Unis est intéressant, parce que le département de la justice américain, le ministère de la justice américain, a envoyé une lettre à l'Académie des Oscars pour leur dire « Écoutez, si vous vous réunissez entre studios de cinéma et que vous déclarez que un de vos membres, puisqu'en plus Netflix fait partie de l'Académie aujourd'hui, mais un concurrent n'a pas le droit d'accéder aux Oscars et donc pourrait ne pas avoir, avoir un désavantage, parce que quand on n'obtient pas d'Oscar, quand on obtient un Oscar, ça donne un argument commercial hyper fort, ça remet le film sur le devant de la scène, ça amène énormément de spectateurs, quel que soit le moyen par lequel ils voient le film. Et donc, si vous conspirez pour exclure un des acteurs de l'industrie organisme ou de ce système de récompense, eh ben c'est illégal. Et donc, faites attention à ce que vous décidez. Ils ont une réunion dans quelques semaines. Faites attention à ce que vous décidez, parce que si vous excluez Netflix, a priori, c'est illégal. C'était assez intéressant de voir que le département de la justice, le ministère de la justice américain, s'en est mêlé pour des questions, en fait, de monopole ou de cartel, finalement. Je ne sais pas si le terme
est exact. Juste des questions anticoncurrentielles.
C'est ça, anticoncurrentielles, oui.
Donc en gros, dans leur esprit, on découpe le fait, c'est-à-dire que la sortie en salle est plus consubstantielle de la nature cinématographique d'une œuvre. Voilà, c'est tout.
Ce qui est une question qu'on se pose beaucoup aujourd'hui. Il faut que le film soit sorti en salle aux États-Unis aussi, mais ils peuvent le sortir, il doit être en salle pendant une semaine. Donc ils peuvent le sortir dans une salle, le mettre sur Netflix genre le lendemain. Ils n'ont pas même besoin d'attendre que la sortie en salle se soit conclue. Et il doit être en salle une semaine. Donc c'est vraiment très très simple. Ils peuvent le mettre dans deux salles dans le pays.
Chez nous, c'est bien plus compliqué.
Exactement.
Parce qu'on a des obligations. C'est-à-dire qu'en gros, ton film ne peut arriver sur Netflix que... C'est combien ?
Netflix, c'est 3 ans, parce que c'est différents types de diffusion. Mais du coup, Netflix peut choisir de ne pas sortir le film en salle, auquel cas, ils peuvent le mettre sur Netflix quand ils veulent. Mais du coup, il n'est plus éligible, et ça, c'est une nouvelle règle, il n'est plus éligible au César ou au Festival de Cannes, je crois, c'était le problème spécifique. Donc, bon, bref, c'est vraiment intéressant de voir qu'aux États-Unis, il y a cette question d'anticoncurrentialité qui s'est insérée dans le truc, et que le département de la justice s'en est mêlé très activement. C'est même pas qu'on leur a posé la question, c'est qu'ils ont envoyé une lettre en disant « Les gars, du calme, il faut pas se liguer comme ça contre un concurrent, parce que c'est pas possible, c'est illégal. »
Parce qu'en fait, de fait, l'Académie des Oscars est une espèce de, est quand même à la base un club des majors du cinéma, ce qui est normal, hein, parce que par essence, c'est comme ça que ce truc s'organise. Mm-hmm. C'est un club des professionnels du cinéma comme c'est l'Académie des Césars. Et du coup, de fait, les accords entre concurrents qui permettraient d'en exclure un autre, là, ça tombe sous le coup de la loi.
On dirait la guerre entre les taxis et les Uber, tu sais.
C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est l'ancienne industrie et la nouvelle industrie qui ont du mal à s'interfacer. Et justement, puisqu'on parle d'ancienne et nouvelle industrie, on a souvent parlé de Spotify et de l'impact que la société et le streaming avaient sur la musique. Et alors, nous qui sommes très au fait des activités de la jeunesse, moi j'ai un bébé, donc je connais bien les jeunes. Cédric, lui, il a plusieurs enfants, donc évidemment les jeunes...
J'en ai plein.
Il en a des tonnes. Et bah, Gaël, j'en parle même pas, c'est carrément son métier. On connaît tous TikTok, qui est cette nouvelle application que les jeunes apprécient. Bon, plus sérieusement, je vous en avais parlé à plusieurs reprises pendant ces derniers mois de TikTok. C'est une application, un réseau social qui est, en fait, pour résumer la chose, c'est un générateur de mimes, ou pas un générateur, mais un réseau social où on s'échange des mimes musicaux. Et il est vraiment assez sympa, en plus, ce réseau social. Beaucoup de succès avec les jeunes. Et c'est intéressant, j'ai vu de nombreux sujets, de nombreux articles indiquant à quel point ce réseau social avait aidé des artistes à se faire connaître et à rendre leurs titres populaires, et qui ensuite ils avaient réussi donc à accumuler suffisamment de streaming et de téléchargements et de ventes sur des réseaux comme Spotify. C'est le cas, par exemple, de Lil Nas X, qui a utilisé TikTok pour faire monter en popularité son titre Old Town Road, qui est assez mimesque, et il l'a intégré à un challenge. C'est compliqué à décrire, mais en gros, sur TikTok, on prend un extrait de musique et on se filme soi-même en train de faire un mime. En l'occurrence, le mime associé à Old Town Road, c'était le Yeehaw Challenge, je crois. Ouais. Où il mettait un morceau de la musique, et au moment où il y a le rythme qui reprend, et ben la personne dans la vidéo faisait un truc normal, buvait du Yeehaw Juice et se transformait en cow-boy, on va dire, et faisait des trucs de cow-boy. Mm-hmm. Ça a l'air idiot expliqué comme ça, j'en conviens, mais c'est quand même assez marrant vu dans la vidéo. Et c'est une utilisation hyper maligne qu'a fait Lil Nas X de ce réseau. Et moi, ça me fait vraiment penser à quel point approcher ces nouveaux moyens avec l'état d'esprit d'avant peut être nocif. Et peut être nocif ou pas, peut être nocif, mais ça fait qu'on n'a pas, on ne prend pas avantage des opportunités qui peuvent être offertes par ce type d'outils, finalement. Et je ne sais pas pourquoi ça m'a aussi fait penser à PNL, que ce groupe de rap que les jeunes apprécient, qui eux, alors ce n'est pas qu'ils sont allés faire des mimes, mais ils ont fait des trucs genre mettre des bannières ou mettre des voitures Uber aux couleurs de leur nouvel album, et offrir une course aux personnes qui utilisaient Uber dans ces voitures, ce genre de choses. Et en plus de ça, beaucoup plus important et fondamental, PNL, les deux frères, ils gèrent tout eux-mêmes. Ils ont juste une société qui s'occupe de la publication sur les différentes plateformes, mais ils n'ont ni label, ni grosse société, gros studio qui s'occupe qui prend 70% de leurs revenus pour faire peut-être pas grand-chose dans un monde aujourd'hui où on peut gérer soi-même les choses. Bref, TikTok est un nouveau moyen de marketing, finalement, avec les mimes qu'il génère. Et ça peut créer des opportunités, et c'est hyper malin.
Oui, parce que contrairement à YouTube ou à Spotify, ça ne leur rapporte rien. C'est-à-dire le fait que des utilisateurs de TikTok utilisent leur musique comme fond musical de ce qu'ils publient, t'as raison, c'est vraiment du marketing, c'est de la mise en avant. Et c'est vrai que pour le coup, c'est intelligent parce que ça leur donne une exposition qui est intéressante et qui, du coup, peut avoir des retombées ailleurs, c'est-à-dire là où les gens vont pour le coup, écouter de la musique. Que ce soit Spotify ou YouTube, beaucoup pour les jeunes générations. Donc c'est un moyen marketing assez finaux.
Et pour préciser les choses, l'extrait dure une quinzaine de secondes et il doit être uploadé par l'artiste lui-même ou par l'ayant droit sur la plateforme de TikTok. On peut a priori pas vraiment utiliser ce qu'on veut. Il faut que ça ait été autorisé. Donc ça gère la question des droits.
C'est ça. Tu utilises les morceaux de la bibliothèque musicale de TikTok.
De TikTok, exactement.
En plus, c'est TikTok qui gère la mise en avant, forcément, des titres qui marchent le plus, etc. Donc, ils ont quand même toute latitude pour ça. Et c'est intéressant de voir que là où d'ordinaire, ce serait un vrai problème, parce que tous les gens qui veulent utiliser la musique sur YouTube te le diront, c'est un vrai souci. Là, TikTok a transformé le problème en opportunité, justement, en devenant en plus une plateforme assez enviable parce qu'elle marquait tout ça à une audience très très jeune.
Ouais, exactement. Je ne sais pas si tu es au courant de TikTok, Gaëlle, enfin si tu as suivi l'évolution
si,
de
si.
Cette app.
Ouais. On le voit beaucoup, effectivement. C'est plus les, comme on disait, ils sont plus jeunes, donc c'est les 11-14 ans finalement qui sont plutôt dessus. Après, c'est un réseau social, je dirais, qui est en train de grimper, et on commence à voir les premiers aspects négatifs d'un réseau social qui n'est pas encore structuré et problème de modération. Et surtout avec des très jeunes, parce que, désolé, hein, j'ai toujours l'impression d'être l'oiseau de mauvaise odeur.
Non, mais t'as raison de le mentionner. Ouais.
Mais effectivement, on le voit, parce que les enseignants le voient aussi, d'ailleurs, avec les jeunes dans la cour, taper le mot nazi sur TikTok, et vous avez plein de mimes très spéciaux, on va dire, voilà, qui arrivent. Donc il y a un vrai problème de modération. Je sais qu'ils sont en train de faire changer les choses chez TikTok, et de mettre plus de modérateurs, vu le succès de l'appli, mais effectivement, là, on est dans cette transition où il commence à être très aimé des plus jeunes, en plus, et donc il va falloir qu'il se structure par rapport à ça.
Bon, il va falloir qu'il respecte les systèmes mis en place par la directive du droit d'auteur aussi. S'ils veulent continuer à opérer en Europe. À propos de modération, Twitter a fait un truc, comment le qualifier ? Un petit peu trollesque envers le gouvernement. Vous savez qu'il y a une loi fake news qui a été votée en décembre, je crois, oui, c'était en décembre, qui met en place l'obligation pour les réseaux sociaux, en particulier Facebook et Twitter, de donner des informations sur les campagnes de publicité qui ont attrait à des élections. Et évidemment, c'est pour éviter les interférences de gouvernements extérieurs. Et le gouvernement, donc le gouvernement français, a, il y a quelques semaines, voulu faire une campagne de publicité sur Twitter pour encourager les gens au vote dans les élections européennes qui arrivent en mai, et c'était pour les encourager à s'inscrire sur les listes électorales. C'était la campagne hashtag oui je vote, et Twitter a refusé de mettre en place cette campagne sur son réseau pour en prenant comme justification qu'il n'avait pas les capacités techniques donner les informations que requierait la loi fake news de décembre. Et on a vu beaucoup d'articles ou de commentaires disant « Ah ah ah, le gouvernement pris à son propre jeu, regardez, c'est ce que ça fait de faire des lois liberticides et donc ils sont bien attrapés, c'est trop drôle. » Moi, j'ai une lecture un petit peu différente de cette histoire. Je trouve que c'est Twitter qui a voulu marquer le coup pour justement créer ce genre de sentiment. C'était complètement sciemment délibéré, merci Cédric, de leur part, je crois. Mais surtout, ça dénote d'un problème sur le réseau Twitter, parce que je crois qu'il est important, au vu de ce qui s'est passé ces dernières années dans de nombreuses élections, il est important qu'on ait effectivement la possibilité d'avoir les informations sur, dans le cas des campagnes publicitaires relatives à des élections, qu'on ait des informations toutes bêtes hein, sur l'organisme qui est à l'origine d'une publicité, qui va vous dire... voter pour tel candidat ou tel candidat a dit ça ou tel problème est la cause de... Enfin bref, toutes les problématiques qu'on a dans les élections. Et le fait que Twitter... Alors ensuite, on pourrait dire cette loi ne devrait pas exister, mais on retombe dans d'autres problèmes. Le fait que Twitter ait dit « Ah ben non, on ne peut pas le faire, donc on ne peut pas mettre en place votre campagne », d'autant plus qu'ils ont fini par l'accepter, mais après la clôture des inscriptions aux élections. Donc ça a été... Moi, je trouve que, de mon point de vue, le coupable dans l'histoire, ce n'est pas vraiment le gouvernement, c'est plutôt Twitter. Je sais pas si... Peut-être que je vais donner la parole à Gaël en premier, parce que Cédric parle beaucoup, donc si on l'arrête pas, il s'arrête pas.
Non, mais il n'y a pas de souci. Mais...
Qu'est-ce que tu crois ?
Dis-moi.
Alors, qu'est-ce que tu penses de cette histoire ? C'est une loi qui a un effet pervers, ou est-ce que c'est Twitter qui a fait le mauvais joueur ?
Je vais pas. Je pense que c'est de la maladresse de la part de Twitter. Je pense que ils ont reçu cette demande qui était une demande d'un organisme politique. Ils se sont même pas posé la question. Ils ont même pas regardé, à mon avis, le contenu. Ils ont juste dit non. Et le temps des procédures, comme dans tous les grands groupes américains, le temps qu'il y ait quelqu'un qui dise mais attendez, c'est pas ça. Regardez bien le contenu et que ça passe les différents paliers de concertation et de validation interne, à mon avis, c'est comme ça qu'ils ont fait rater le délai. Je pense que ça n'est que ça.
D'accord, tu vois pas le mal partout comme moi, visiblement.
Non, pour avoir travaillé dans ce type de grosse boîte, c'est souvent y a une règle, elle est appliquée sans réfléchir, et après, quand on pose la question, ça met du temps parce que ça tombe pas dans la bonne case. J'imagine que c'est ça, ou peut-être que j'espère que c'est ça.
Ouais. Cédric, t'es d'accord?
Moi, je pense que, comme souvent, la solution la plus réaliste est probablement la plus simple. C'est-à-dire que tu as une loi qui date de décembre. Je sais même pas s'il y avait pas, si les décrets d'application sont pas parus un peu après. Et du coup, il leur faut du temps pour développer la solution, surtout pour quelque chose qui est, rappelons-le, totalement franco-français. Donc, qui est pas forcément en haut de la pile de leur priorité du moment. Tu vois ce que je veux dire? Leur priorité du moment, oui, c'est par exemple ce qu'ils ont dévoilé hier sur, à partir de dorénavant, tu ne pourras pas suivre plus de 400 nouvelles personnes par jour. Au lieu de 1000 pour éviter les spams, les follow unfollow, les bots et le reste. Bon, je pense que ça, voilà, c'était plus sur le haut de la pile.
Je précise qu'il y a des sociétés comme Facebook notamment qui a d'eux-mêmes, ils ont mis en place ce type d'outils qui permettent d'avoir plus d'informations sur l'origine et le client ou le fournisseur, je ne sais pas comment on dit dans le cas du réseau
bien sûr,
social,
l'annonceur
d'une pub. Mais ça, ils l'ont fait d'eux-mêmes, c'est pas
Ah oui, parce
loi.
Qu'eux, ils ont quand même eu Cambridge Analytica, ils ont eu tout ça, donc ils avaient quand même des problèmes locaux à régler de manière plus efficace. Je pense que voilà, Twitter a dit, bon, écoutez, très bien, vous mettrez ça dans la pile, et en attendant, on refuse toutes les campagnes politiques, parce que on va pas se mettre en défaut. Du coup, les coups de colère que j'ai entendus derrière sur eux, ils devraient plutôt s'occuper des contenus terroristes, etc. Ouais, c'est bien, mais c'est totalement hors sujet. Et puis, faut rappeler un truc, hein. Un média, il passe les pubs qu'il veut dans l'ensemble. Donc, s'il a des règles, il suit ses règles. Moi, j'ai pas de. Je comprends la déception, mais je pense pas que ce soit une sorte de message un peu comment dire, un peu passif-agressif envoyé par Twitter au gouvernement D'accord. français sur vous nous cassez les pieds. Non, c'est juste désolé, on n'a pas développé la fonction encore. Vous voyez, le développeur va y travailler, mais le gars du front-end, il n'était pas dispo, donc on s'y mettra en mai. En gros, c'est ça. Hein, je pense que c'est plutôt ça.
Bon, vous êtes peut-être tous les deux un petit peu plus réalistes que moi qui voit clairement le mal partout. Espérons que vous avez raison.
Bête.
Ouais. Pardon, tu voulais ajouter quelque chose, Gaëlle ?
Non, je dis que pour une fois, c'est pas moi qui vois le mal partout.
Très bien. Bon, on parle aussi de trottinettes électriques, bien sûr. Il y a un truc marrant qui s'est passé à Nantes. Il y a une société de trottinettes électriques en free-floating, donc qui sont disponibles partout, qui s'appelle Wind, qui a inondé Nantes de trottinettes électriques, eh bien, la ville a confisqué l'ensemble de la flotte, ni une ni deux. Ils ont dit, mais vous n'êtes pas venu nous voir, on sait qu'on a des problèmes avec ce type d'outils depuis des mois, il faut que vous nous posiez la question, qu'on s'arrange, c'est peut-être possible, mais il faut qu'on en parle avant que vous mettiez vos trottinettes partout. Et donc, ni une ni deux, Nantes, moi je trouve ça pas mal, je suis plutôt pour la disruption technologique, mais là, ils jouent un petit peu avec le feu, ces sociétés, parce qu'on sait que ça pose des problèmes, et là, ils y sont allés au culot. Bon, ça n'a pas marché, tant pis, retente le coup une autre fois. D'autant plus que Paris a lancé la régulation des trottinettes électriques, et c'est intéressant parce que, alors, d'une part, les trottinettes n'ont plus le droit de rouler sur les trottoirs, ce qui est tout à fait compréhensible, mais du coup, il faut rouler sur la route, ce qui est peut-être un petit peu dangereux. Et puis, il y a des taxes sur les sociétés en fonction de la taille de la flotte qu'elles ont dans la ville. Et surtout, il y a des places réservées aux trottinettes électriques ce qui va un petit peu à l'encontre du principe même du free-floating, ce qui veut dire que dans le free-floating, normalement, on peut laisser les trottinettes n'importe où, ce qui pose des problèmes parce que ça bloque le passage, en particulier quand les trottoirs sont étroits, etc. Mais maintenant, il y aura des places spécifiques réservées à ces trottinettes. Et le problème, c'est qu'il y a très peu de places prévues pour beaucoup de trottinettes. Donc, je ne sais pas comment ça va se passer concrètement. Mais en tout cas, maintenant, il y a des règles auxquelles il va falloir se conformer. Je crois qu'il y a deux types de réactions à tout ça. Ceux qui voient ça d'un petit peu loin disent « Oh, bah, c'est quand même un petit peu drastique comme règle. Il faut laisser l'innovation faire son boulot. » Et puis, ceux qui sont dans Paris, qui peuvent plus passer avec leur poussette et leur bébé sur les trottoirs parce qu'il y a des trottinettes partout, qui disent « Non, non, bah, c'est très bien. Virez-moi toutes ces merdes. » Moi, ça m'arrangera que ça soit un petit peu plus, parce que ça pose des vrais problèmes d'urbanisme, quoi.
Oui, sinon à Paris, on a un peu réglé le problème parce que maintenant, c'est interdit sur les trottoirs.
C'est ça.
Donc,
oui.
il reste les pistes cyclables et la route tout court.
Non, mais je veux dire, pas le stockage, mais le stationnement des trottinettes.
Ah oui, pour le stationnement, ça, oui, je suis d'accord.
Parce qu'il y avait sur des trottoirs relativement étroits qui font 1 mètre, 1,5 mètre, quand il y a la trottinette qui est arrêtée en plein milieu qui te bouffe la moitié du trottoir, bah, ça peut être, c'est un problème pour marcher, c'est juste un petit peu gênant. Mais pour des personnes âgées, pour des poussettes,
des fauteuils roulants. Toi qui habites dans la toundra, forcément, ça ne te concerne pas. mais nous qui vivons comme des citadins malheureux, oui, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de trottinettes partout. Moi, c'est bon, à l'arrêt, c'est vrai que parfois, parce qu'il faut comprendre en plus comment tout ça est organisé, c'est-à-dire qu'elles sont ramassées la nuit pour être rechargées et puis après remises aux endroits les plus intéressants pour chaque réseau de trottinettes. Donc en gros, quand elles sont garées le matin, ça va, parce que d'ordinaire, les gens qui les mettent en place à des endroits où ça gêne pas trop. C'est après que le problème se pose dans la journée, quand elles ont fait 2-3 trajets et que tout à coup on les laisse, accoudées à un réverbère. Le plus souvent, elles vont finir par tomber. Bon, bref, c'est vrai que c'est gênant. Et à Paris en plus, il n'y a pas que Paris qui soit concerné, il y a une sorte d'effet de masse quand même, parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup. Beaucoup. Alors, je suis conscient du fait que ça rend beaucoup de services et que c'est super pratique. Mais en même temps, est-ce qu'il faut refaire, des stations à la Vélib et encore, ça marchera comment? Parce que tu as quand même X réseaux maintenant de trottinettes qui se tirent la bourre. Il n'y a pas de solution. Je pense qu'il y a une sorte de tolérance parce que c'est quelque chose qui quand même accroche. Hein. Les gens l'utilisent, les touristes sont ravis. Enfin, c'est un moyen de plus de déplacement doux, j'ai envie de dire. Mais à un moment, l'effet de masse va dépasser la tolérance issue de l'utilité, quoi. Mmh.
Clairement, Cédric est anti-innovation.
Bien sûr, comme toujours.
Il veut légiférer à tout va.
Mais bien sûr.
Est-ce que tu es du même avis, Gaël?
C'est vrai que, alors, je sais que c'est censé être interdit sur les trottoirs, mais j'avoue que je n'ai pas vu grand monde réellement respecter cette règle pour l'instant.
disons que légalement, ça fait que quelques jours que les régulations sont tombées, à Paris en tout cas. Donc peut-être que tout à coup, les gens vont respecter la loi, j'en doute effectivement.
Oui, après, quand ils seront effectivement sur la route, ça va être compliqué, parce que quand il y aura eu 10 accidents graves, on va revenir au fait qu'il va falloir les remettre sur les trottoirs. Non, effectivement, c'est bien. C'est bien, c'est écolo, c'est nouveau. Mais comme toute transition, il faut trouver le bon dosage. Effectivement, des stations, je pense que ça n'aurait pas de sens, parce que c'est trop compliqué. Après, c'est juste peut-être du savoir-être, du savoir-vivre en société, et pas laisser sa trottinette en plein milieu du trottoir, là où effectivement les poussettes, les gens en fauteuil roulant aimeraient pouvoir passer, et peut-être la mettre contre le mur ou contre le réverbère, c'est déjà pas mal. Mais on va y venir. Hein. C'est effectivement que là, c'est venu d'un coup, il y en a vraiment. C'est assez impressionnant. On a l'impression qu'il y a eu une invasion de trottinettes comme une invasion de sauterelles.
Ouais. Si on attend du savoir-vivre des Parisiens, je pense qu'on risque d'attendre longtemps. Hein, mais bon, je dis ça, c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de touristes qui les utilisent. Peut-être que c'est eux qui sont coupables.
C'est ça, c'est eux, c'est sûr.
Voilà, voilà. Rendons l'étranger coupable de tous les maux, c'est quand même beaucoup plus simple.
Je propose qu'on ferme nos frontières.
Voilà.
À cause des trottinettes.
À cause des trottinettes. Tiens, la directive sur le droit d'auteur. Alors, on en a parlé pendant une heure à l'épisode précédent, donc on ne va pas vous refaire tout le laïus, hein, mais je voulais juste proposer, il y a eu beaucoup de commentaires dans les commentaires de l'émission, sur Twitter, un petit peu partout, et beaucoup de gens parlaient des problèmes que ça pose déjà sur YouTube et de la remarque que faisait Jérôme, avec raison, que le YouTube risque d'être plus clément avec les gros ayants droit qu'avec les petits créateurs. Et j'aimerais vous proposer un scénario juste pour l'avoir mis quelque part, et que si ça se produit, je pourrais dire, bah, je vous l'avais dit, c'est l'idée que, comme je le disais dans l'épisode précédent, il y a, parce que, excusez-moi, je dis ça parce que la transposition dans le droit français de la directive va se faire a priori avant l'été, donc ça va arriver assez vite, et comme je le disais à l'épisode précédent, il est inscrit dans le droit d'auteur qu'il est nécessaire pour les plateformes de faire respecter les exceptions au droit d'auteur dont on parlait la semaine dernière et qu'évoquait Jérôme notamment, avec des exceptions comme le droit de citation, la critique, etc., etc. Donc tout ça est inscrit dans la loi. Et j'aimerais proposer le scénario que YouTube se fasse traîner devant la justice par soit des petits créateurs entre guillemets ou des créateurs indépendants qui sont devenus gros, soit par des groupements de petits créateurs et se retrouve à aller jusqu'à la Cour de justice de l'Union européenne et que la Cour de justice de l'Union européenne dise bah désolé YouTube, vous devez autoriser l'utilisation pour critique, l'autorisation pour courte citation, etc. Ce qu'ils font très mal aujourd'hui à cause de la manière dont est implémenté leur Content ID. Si ça se produit, YouTube pourra ensuite se retourner vers leurs gros ayants droit, comme les maisons de disques, les maisons de les studios de cinéma, etc., et leur dire bah, désolé, on est obligé. Et donc là, maintenant, on doit mettre en place un système un petit peu différent qui prend en compte ces problématiques. Et quand vous faites une demande de retrait de monétisation d'un petit créateur, et bah, si lui, il dit qu'il a, il l'utilise comme critique ou comme courte citation, eh ben, on sera plus clément avec ce type de choses. Et je pense qu'il y a un scénario, peut-être pas très probable, mais qui est quand même, qui existe, où cette directive sur le droit d'auteur bénéficie au final aux petits créateurs. Donc voilà, je ne sais pas si ça va se produire, peut-être même que c'est peu probable, mais
c'est une façon de dire le pire n'est jamais sûr. Même ouais. Si le problème dans tout ça, c'est que Content ID est un truc qui fonctionne, avec évidemment des effets de bord qu'on connaît.
Oui, on bénéficie des gros créateurs, c'est ça le problème.
Mais ça reste le système le plus efficace, entre guillemets, même pour YouTube, parce que ça veut dire qu'ils n'ont pas besoin de déléguer une personne humaine pour jouer les juges de paix à chaque fois, tu vois, en disant « est-ce de la critique, est-ce du piratage, est-ce de la citation, oui mais combien, enfin, etc. » Donc soit ils vont arriver peut-être à des règles maison, en disant « ok, bien sûr, il faut qu'on intègre des usages qui ne sont pas du simple piratage dans nos règles, mais on va les intégrer de manière écrite, c'est-à-dire en disant par exemple que, je ne sais pas, une citation, c'est X secondes pour une chanson, X secondes pour... j'en sais rien. La critique, c'est un truc encore plus compliqué, mais le problème pour eux, c'est que voilà, tout ça, c'est des moyens humains en plus. C'est comme la modération sur Facebook, tu vois.
Oui, et en même temps, non, parce que là, par exemple, ils pourraient, je sais pas, je dis n'importe quoi, j'y réfléchis deux secondes, mais on pourrait mettre dans une vidéo de créateur, si on est un petit créateur, dire « ma vidéo contient de la critique de tel produit ». Et donc, cette information pourrait être…
Qu'on le déclare comme on déclare
exemple,
du placement de produit, du sponsoring,
par exemple, oui, je sais pas, un truc du genre. Ouais, c'est juste une idée, mais il pourrait y en avoir mille autres. Et en gros, ils n'ont aucune… raison de penser à résoudre ce problème aujourd'hui, justement parce que leur argent vient des gros créateurs. Et ce que fait aussi, dans sa nouvelle version, la directive du droit d'auteur, c'est leur donner une raison légale, une inquiétude légale, de se préoccuper de ce problème également, en plus du fait de faire respecter le droit d'auteur. Donc, bon... Encore une fois, je ne suis pas non plus complètement naïf. Je sais bien que ça ne va pas être leur première priorité. Mais je me demande s'il n'y a pas un scénario dans lequel, pour des raisons de procès qui remontent jusqu'à la Cour de justice, de l'Union européenne, peut-être ça pourrait pas créer quelque chose dans quelques années. J'en sais rien, mais bon, on verra.
J'achète ton scénario, en tout cas.
Ah, merci. Voilà, là, on est... au moins, on est d'accord pour dire que c'est pas impossible et ça serait souhaitable.
Tout à fait.
Ouais. Cédric, je peux avoir ton buy-in sur... Oui, c'est oui, pas impossible,
non, non, mais que tout à coup, il n'y ait plus de flou et que tout ça aboutisse à des règles écrites et acceptées de tous, on peut que le souhaiter. Hein.
Ouais. Bon, ensuite, j'avoue que même suite à cette décision, il ne serait pas forcément évident que ça règle tous les problèmes, et voire même que ça serait difficile de régler le problème, même si on leur dit « il faut que vous le régliez ». Donc, je ne sais pas. Bon. Tiens, dernière chose, le clavier français, vous savez qu'on vous en avait parlé il y a quelques temps, le clavier français a été revu par l'AFNOR, et il y a une nouvelle norme. Alors, une norme n'est pas contraignante, hein, c'est une sorte de recommandation, mais une nouvelle norme pour le clavier AZERTY amélioré, qui a quelques changements. Ça ne change pas l'ensemble du clavier. Il y a un autre type de clavier qui s'appelle le clavier BEPO, qui est également possible, mais qui, a priori, ne sera pas utilisé autant, parce que les gens sont habitués à l'AZERTY maintenant, et c'est compliqué de réapprendre à taper. Mais donc, il y a un AZERTY amélioré qui inclut tout un tas de changements, comme par exemple une plus grande facilité d'accès de certaines lettres ou de certains symboles qui font que le français sera a priori plus adapté, ou en tout cas ses claviers seront plus adaptés au clavier, parce que c'est vrai que ces claviers seront plus adaptés au français, pardon. C'est vrai que les premiers claviers AZERTY avaient été faits il y a très longtemps et les choses ont évolué depuis et on n'utilise plus nos claviers de la même manière. Il y a plein de choses, hein, je ne vais pas toutes les mentionner, mais la norme est établie, on devrait commencer à voir apparaître les claviers bientôt dans le commerce. C'est la norme NF, pour norme française, Z71-300. Donc, si ça vous intéresse,
ah bah oui, c'est un travail de l'AFNOR.
Bah, bien sûr.
Moi, j'étais au lancement, hein, c'était il y a pile une semaine à l'Assemblée nationale, forcément. Et c'est intéressant, en fait. C'est un truc que j'avais suivi parce qu'il y a eu des appels à commentaires. Enfin, c'est une espèce de norme consensuelle et pas obligatoire, d'ailleurs. Hein. C'est pas, attention...
C'est ça, c'est pas une loi, c'est...
Non, c'est pas la définition du maître de l'étalon de Breteuil, hein. C'est pas, voilà, les constructeurs y passeront quand ils veulent. On risque d'ailleurs de le voir arriver d'abord sur des claviers logiciels, sur des smartphones et tablettes, plutôt que sur des claviers physiques, même si je pense pour moi plutôt que l'intérêt se situe du côté des claviers physiques. Parce qu'en fait, et il l'explique très bien, le clavier AZERTY tel qu'on le connaît, il dérive du QWERTY qui a 150 ans, l'AZERTY en a peut-être 130, et tout ce qui s'est passé depuis, c'est un peu des ripollinages successifs de, tiens, il faudrait qu'on rajoute, je dis une bêtise, l'arobase, on va la coller, je sais pas, tiens, mets-la là, tiens, ouais, puis on fera un alt, machin, ouais, ok, ça devrait le faire. L'euro, tiens, où est-ce qu'on le met, l'euro? On remplace la livre ou le dollar? Non, attends, on les met ensemble, ouais, mais j'ai pas de place, alors mets-le en dessous du... voilà.
J'aime beaucoup ce re-enactment de la discussion qu'ils ont eu.
Cette reconstitution, de comment on a mis la touche pour l'euro. Et oui, mais c'est ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois, c'était des besoins immédiats avec des solutions, à la fois pragmatiques, empiriques, mais un peu par défaut. Parce que tu ne peux pas changer comme ça, par exemple, le nombre de touches du clavier. Ça ne se fait pas. Parce que d'un coup, ça pose plein de problèmes à plein de gens, les fabricants d'abord. Mais à un moment, c'est vrai qu'il y avait un besoin de rationalisation. Donc là, c'est très simple. Hein. Tout à coup, par exemple, on a fait deux choses. Les accents, les caractères accentués sont maintenant à peu près tous au même endroit. Les caractères qui ont trait aux maths, c'est-à-dire les opérateurs, les signes et le reste, sont plutôt à droite du clavier. Tu as maintenant des touches, un peu comme le circonflexe aujourd'hui ou le tréma, qui vont te permettre d'accentuer n'importe quelle lettre qui sait faire, c'est-à-dire par exemple accentuer des majuscules, ce qui aujourd'hui, je te rappelle que tu vois, moi qui tape des E accent aigu majuscule, des A accent grave, etc., Alt 183, Alt 144, Alt 128 pour le CCDI majuscule. Bon, c'est casse-pied. Donc voilà, tout ça va être simplifié. Moi, j'aime bien aussi les vraies nouveautés. C'est-à-dire que, par exemple, le point ne sera plus une majuscule, ce sera une minuscule. Et on a rajouté des choses comme les trois petits points qui ont maintenant leur propre touche, enfin, qui est en fait la majuscule d'une autre. Voilà, ça ne va pas changer la vie au sens que les touches de l'alphabet, elles ne bougent pas, mais le reste est quand même à la fois rationalisé, simplifié, et ton clavier, sans que tu ailles toucher aux settings de l'ordinateur sur lequel tu es, va te permettre de taper des caractères à peu près de toutes les langues européennes.
Bon, je dis merci l'AFNOR. Voilà.
Vive la France.
Vive la France et vive l'AFNOR.
Et donc maintenant, on n'a plus de raison de faire des messages avec des fautes et on peut écrire en français correctement.
Au moins, on peut. Mais c'est vrai que moi, tu parlais des des majuscules accentuées, moi, j'en utilise jamais parce que c'est juste pénible. Donc là, on pourra. C'est tout bête, mais...
Tu sais que sur Mac, ça se fait très facilement. Hein.
Oui, mais... Moi, je suis sur PC, principalement.
Tu veux faire un AT sur PC. Okay.
Oui, non, mais tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui me disent...
Ça va résoudre le problème de manière élégante. Ouais.
Patrick,
tu vas pouvoir maintenant Apple, faire des trois petits points d'un seul coup, c'est bon.
Exactement,
tu peux
exactement. Non, mais moi, mine de rien, c'est un truc. Bon, je suis clairement un nerd fini, mais c'est un truc que j'attends avec impatience. Moi, j'ai hâte de pouvoir acheter mon clavier AZERTY amélioré bientôt. Bon, en même temps, je veux des claviers de gamer, donc ça va être compliqué. Il faudra que les claviers de gamer soient revus. Logitech va s'y intéresser, j'espère, assez vite. Mais bon,
Logitech, bref. Cherry aussi, nos amis allemands. Enfin,
ouais,
tout
ouais,
ça va. Arriver vite, hein.
Oui.
Parce qu'en fait, ça touche pas à la configuration physique du clavier, donc en fait, c'est assez simple. Tu pourrais quasiment juste mettre des stickers.
Ouais, non, mais attends, tu sais pas quel soin j'apporte à mon PC, des stickers. Tu m'as fait un coup au cœur là. Ouf, bon. Mais écoutez, on va faire une petite pause rapide pour remercier les gens qui soutiennent le Rendez-vous Tech sur Patreon. Des gens comme Guillaume Morel, Olivier Le Petit, Fred BX, Michel 035 et pas 036, attention, Margot, Riffo et Paul Dwadge. Merci à vous tous et merci à tous ceux qui choisissent de soutenir le Rendez-vous Tech sur patreon.com. Vous savez comment ça fonctionne, hein. Vous allez sur le site, en deux minutes, vous avez décidé je veux soutenir à un niveau, on va dire, de 2$ par épisode pour 3 épisodes par mois. Et voilà, c'est parti. Et vous pouvez arrêter ça quand vous voulez. Et c'est comme ça que l'émission est financée. Donc, si vous écoutez l'émission, si vous pensez que ça vous fait passer un bon moment, ça vous informe, il y a un vrai travail qui est quand même fait derrière. Et le travail, c'est difficile de le faire quand on n'est pas payé. Et bien, en l'occurrence, vous pouvez faire en sorte que je récupère un petit peu de sous quand même à la fin du mois, ou beaucoup, hein, si vous voulez donner beaucoup de sous, n'hésitez pas, et vous allez sur patreon.com/rdvtech. Et d'ailleurs, certains auditeurs ont envoyé des petits messages, parce que je me suis dit, j'allais retenter l'expérience des petits messages. Ils ont envoyé des messages que je mettrai à la toute fin de l'épisode, pour que leur donner l'opportunité de se lâcher. J'ai dit aux patriotes, allez-y, si vous voulez dire ce que vous avez sur le cœur, vous pouvez m'envoyer un message et je l'intégrerai dans le prochain épisode. Et ben là, ils seront après le générique. Donc, si vous voulez écouter ce que les auditeurs patriotes ont à dire, alors c'est vraiment sur tous les sujets, hein, sur des sujets très différents. Il y a des recommandations, il y a des gens qui parlent de 5G, il y a plein de choses. Il y a quelques messages. Donc, vous pourrez écouter ça après la fin de l'épisode. Et merci à tous ceux qui choisissent de soutenir l'émission. Bon, maintenant est venu le moment que tout le monde attendait. En fait, c'est le moment où on va parler des GAFA. On va parler de Google, de Apple, de Amazon et de Facebook. Donc, on laisse Microsoft de côté parce qu'il n'y avait pas eu une grosse news. J'aurais pu en choisir une quand même, mais on va les laisser de côté. Et ce que je vais faire, c'est que je vais lire les différents sujets sur chacun d'entre eux et je vais m'arrêter après chaque lettre. Donc, d'abord Google, ensuite Apple, ensuite Amazon et ensuite Facebook. Et je vais vous donner à tous les deux l'opportunité de choisir ce que vous allez commenter ou pas après que j'ai lu tous les sujets. Donc, vous voyez, on passe pas énormément dessus. Il faut avouer que c'est pas des gros sujets, sinon on l'aurait fait, bien sûr. Commençons par Google, tiens. On vous parlait la semaine dernière de ce comité d'éthique sur l'intelligence artificielle qu'ils avaient formé. C'était un comité extérieur composé d'experts. Eh bien, le comité extérieur a explosé en vol et de manière assez spectaculaire parce que une semaine, même pas une semaine après sa création, quelques jours après sa création, il a été dissous suite à de nombreuses controverses, des choses comme le caractère de certaines personnes qui participaient à ce comité a été remis en cause, leur vision, leur vue politique, ce qui aux États-Unis est très problématique parce que si on inclut tout le monde, si on n'inclut pas tout le monde, les gens se plaignent qu'il n'y a pas tout le monde. Si on inclut tout le monde, les gens des deux côtés se plaignent qu'il y a des gens de l'autre côté. Donc c'est vraiment compliqué à gérer. Donc le comité sera donc dissous et ils vont gérer les choses d'une autre manière, j'imagine peut-être un petit peu plus en interne, mais c'est frustrant parce qu'il faut que l'éthique soit intégrée à leur réflexion et de quelque manière qu'ils essayent de le faire, systématiquement, ça pose des problèmes. Bref, il y a Android Q, la prochaine version d'Android dont la bêta 2 est sortie. La fonctionnalité la plus intéressante, c'est les petites bubbles, les bulles de multitâche. Les bubbles multitasking UI, les interfaces de multitâche en bulle, eh ben ça crée une petite bulle, donc un petit cercle en gros, que vous pouvez mettre n'importe où sur votre interface quand vous sortez d'une app. Et quand vous tapez dessus, ça va vous réouvrir une partie de cette app, choisie par le développeur bien sûr, de manière à ce que vous puissiez interagir avec. Donc en fait, c'est des petites bulles, les apps qui sont actives, transformées en petites bulles qui restent sur, sur votre écran où que vous soyez dans l'OS. Et vous tapez dessus, ils ont fait une app exemple avec une app de messagerie. Et donc, là, en l'occurrence, vous tapez sur la petite bulle et ça vous rouvre la conversation que vous aviez avec la personne que vous avez choisie, donc pour créer une bulle avec ça. Vous êtes dans l'application de messagerie, vous cliquez, vous tapez sur l'icône « Créer une bulle », ça vous crée cette petite bulle, ça ferme l'app et vous pouvez donc continuer à interagir où vous soyez dans l'OS. C'est assez malin et ça arrive donc sur la prochaine version d'Android. Dernière chose, en dehors du fait qu'ils ont fermé Google Plus, ça y est, c'est terminé, Google Plus n'existe plus, ils ont mis de la pub sur Android TV. Alors, Android TV, vous savez, c'est leur interface de Android qui est prévue pour les box connectées à la télé. Ils ont mis une rangée de pubs et de trucs recommandés, en fait. C'est pas tout à fait de la pub, mais des trucs recommandés qui sont peut-être un petit peu de la pub quand même. C'est pas problématique pour les box qui sont pas trop chères. On va se dire, ok, l'OS est gratuit, bon, un truc qui m'a coûté 50 euros, pourquoi pas, mais ça s'applique aussi aux grosses télés qui tournent sous Android télé, sous Android TV. Et donc, vous avez votre grosse télé Sony que vous avez payé 2000 euros, et ben maintenant, vous avez de la pub sur l'interface Android TV de votre télé, qui est l'interface principale. Super, merci. Évidemment, les gens ne sont pas contents. J'imagine que Google va revoir un petit peu ces choses-là. Oui, je voulais signaler une dernière chose aussi quand même. Selon une étude récente, 50% des adultes aux États-Unis ne pensaient pas que Google collectait des données sur leurs activités, sur ses plateformes et ses applications. Ce qui, moi, m'a fait m'étrangler parce que c'est quand même incroyable qu'encore aujourd'hui, après tout les scandales qu'on a eus sur ces sujets, il y a encore, pas juste 10%, pas juste 20%, mais 50% des adultes américains qui pensent que Google ne collecte pas de données quand ils utilisent leurs apps et leurs plateformes. C'est quand même invraisemblable. Donc, voilà, intelligence artificielle avec le comité d'éthique, le multitâche avec les bulles, les pubs d'Android TV et les gens qui ne pensent pas qu'on les traque. Je vous laisse la parole, qu'est-ce que vous préférez ?
Je laisse Gaël partir devant.
Vas-y.
Ben moi, je préfère l'intelligence artificielle et le comité éthique.
Ouais.
Enfin, je préfère. C'est ce qui me fait le plus flipper, en fait.
Ouais.
qu'on n'arrive pas à avoir un comité éthique chez Google et qu'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord pour avoir un comité éthique, justement, de tous bords, puisque c'est quand même le principe d'un comité éthique, hein, c'est que tous les bords soient présents. Et surtout que derrière, c'est notamment parce qu'il y a eu une pétition interne des googlers pour dire qu'ils n'aimaient pas qu'il y ait telle personne ou telle personne, ça laisse douter effectivement la capacité de Google à résoudre ce problème à court ou moyen terme. Et si c'est en tout cas chez eux, ça sera pareil, j'imagine, dans d'autres sociétés. Mais là, qu'on n'ait toujours pas de comité éthique dans ces boîtes-là, je trouve ça surprenant et je trouve ça effectivement extrêmement flippant parce que c'est quand même la base de tout développement algorithmique d'une intelligence artificielle.
Bah c'est ce qu'on leur reproche effectivement, c'est de ne pas penser à l'éthique avant de mettre en place leur système. Il faut préciser quand même que l'un des problèmes était qu'ils avaient inclus dans ce comité éthique une personnalité de la droite américaine et il faut savoir qu'aux États-Unis évidemment, si on pense qu'en France il y a une opposition féroce entre différents partis et différents bords politiques, aux États-Unis ils ont en gros, je résume, mais deux partis et donc toutes les polarités se focalisent sur deux partis, donc sont vraiment décuplées et en l'occurrence l'une des personnes qui faisait partie du board était une personnalité de la droite américaine qui est plus particulièrement à droite. Et du coup, je schématise énormément, mais on peut imaginer qu'il y aurait eu un comité. Si on met les choses en perspective en France, il y aurait eu une personne qui faisait partie, par exemple, du Front National ou du Rassemblement National, comme il s'appelle, comme peu importe le nom, avec des thèses ou des idées qui sont critiquable du point de vue justement de la neutralité par rapport à l'ethnie ou ce genre de choses. Et c'est de là que viennent les critiques. Ce qui est également, je veux dire, moi je suis d'accord sur le fait que oui, bah, mine de rien, il faut représenter toutes les sensibilités de la société. Mais je pense que beaucoup de gens qui, a priori, se diraient « Ah bah oui, il faut représenter toutes les sensibilités, donc c'est normal qu'on ait plein de gens », s'ils étaient mis en face des thèses de la personne en question, ils auraient eu les mêmes doutes émis, je crois. Mais...
Bah, c'est vrai que c'est un problème quand les opinions les plus saillantes du garçon, je sais plus si c'est un garçon ou une femme.
C'est une femme, oui.
C'est un garçon.
Une femme.
C'était une femme avec un nom de garçon, donc c'est compliqué.
Oui, c'est ça. Et qui justement posait des questions, tu vois, d'éthique sur les droits des homosexuels, sur ce genre de choses. Et je pense que c'est là que ça a chopé. C'est genre, attendez, vous êtes en train de faire un comité d'éthique avec ça, schématiquement.
Oui, sauf que ça représente une énorme partie de la population américaine. Tu vois, ça représente leur vue. Donc, c'est compliqué aussi de ne pas l'inclure.
Ouais, c'est compliqué, mais le but de ce genre de comité est justement d'éviter de produire au bout de route des algorithmes qui aient les mêmes biais que des gens plus ou moins tolérants. Donc je comprends que ça ait posé souci. Et alors surtout une chose.
Je sais pas. La tolérance, Cédric, ce que tu appelles de la tolérance. Et moi, j'aurais tendance à être d'accord avec toi. Mais si je veux pousser le bouchon, c'est pas une question de tolérance. C'est aussi une question. C'est pas qu'une question de tolérance. C'est une question de morale. Si pour nous la tolérance c'est morale, il y a d'autres personnes qui vont me dire. Enfin, on extrapole énormément parce que ça ne veut pas dire que la personne en question aurait dit « il faut absolument mettre un biais anti-homosexuel dans le truc ». Ça peut aller au-delà, mais...
C'est un comité à la base, hein. Donc c'est ça veut pas dire qu'effectivement on va prendre... On va entendre les thèses de cette personne et c'est important de les connaître pour pouvoir ne serait-ce que les contrer déjà.
Je pense aussi...
Non. Enfin, c'est mon point. Et si tu veux, ce qui m'inquiète surtout, c'est que, enfin, si il y a une pétition contre une personne et que du coup ça fait exploser les choses, là, effectivement, on est tous d'accord sur le fait que cette personne était d'extrême droite, etc. Mais ça pourrait aller, ça pourrait être sur quelqu'un d'autre. Et en fait, c'est le concept qui me pose problème, en fait, et de dire que parce qu'il y a une pétition en interne, bah ça base la personne du comité éthique, c'est pas normal.
L'autre difficulté, c'est qu'en fait, ils ont monté une sorte de comité éthique avec des gens dont l'IA n'était pas du tout le métier, alors qu'ils pouvaient être représentatifs de différentes sensibilités, de différents métiers, etc. Mais regarde, tu vois, chez nous, quand il a fallu faire un comité consultatif sur la bioéthique, par exemple, on est quand même allé chercher des médecins, des généticiens, etc., parce que ce sont quand même des matières qui sont difficiles à régimenter si t'as pas de connaissance de la technologie qui se cache derrière ou de la technique ou de la science qui se cache derrière. Donc ça devient une espèce de comité. Alors je pense que ils ont voulu aussi faire un comité externe, c'est-à-dire pas juste rassembler des experts de l'intérieur de Google, ce qui pour le coup est pas une mauvaise idée, mais du coup le comité existe plus. Je pense qu'ils vont revenir avec une sorte de solution hybride qui sera un comité d'experts interne et puis avec à la tête duquel on trouvera une personnalité pour le coup irréprochable, tu vois ce que je veux dire, ou au moins dont le nom fasse consensus.
Oui, disons que clairement il y a eu beaucoup d'erreurs. On a parlé de cette personnalité qui était particulièrement controversée, mais il y a eu d'autres erreurs. Je crois qu'il n'est pas incohérent de se dire pour des problèmes comme cela, on va avoir des gens qui sont peut-être avec une propension philosophique plus que expertise technique, mais clairement dans ce comité il y avait eu de nombreuses erreurs et celle-ci était l'une d'entre elles. Gaël, tu peux te muter quand tu parles pas parce qu'on entend un petit peu de bruit de fond. Merci beaucoup. Passons à Apple. Apple Music a continué à croître à un rythme bien supérieur à celui de Spotify. Alors, ils ont, aux États-Unis en tout cas, atteint visiblement 28 millions d'utilisateurs ce mois de février. Et Spotify, aux États-Unis toujours, est à 26 millions d'utilisateurs. Les deux sont en croissance encore aujourd'hui, mais Spotify est à 1,5 à 2% de croissance, alors que Apple Music est à 2,6 à 3% de croissance. De là à dire que Apple bénéficie du fait qu'ils sont maîtres et juges et parties sur leur plateforme, il y a un pas que je ne franchirai peut-être pas, mais en tout cas ils ont une puissance marketing. Je serai bien le seul, c'est sûr. Disons que ils ont une puissance marketing qui est peut-être plus importante que Spotify. Et puis bon, c'est sûr qu'ils sont chez eux sur leur plateforme, mais ils sont aussi disponibles sur d'autres plateformes. Donc bon. En parlant de plateforme, Apple News Plus a généré 200 000 abonnés. Alors, dans la période d'essai, donc il faut mettre un petit astérisque à ce chiffre, mais 200 000 utilisateurs dans les 48 premières heures du lancement, là où Texture n'en a jamais eu autant de toute sa vie. Alors Texture, c'est l'application qu'ils ont rachetée, qui faisait un petit peu la même chose que Apple News Plus, donc un abonnement au magazine et à la presse, et qu'ils ont intégré à Apple News en l'appelant Apple News Plus. Donc là aussi, on voit la puissance de la plateforme d'Apple qui est peut-être un petit peu démesurée par rapport à ceux avec lesquels ils entrent en compétition aujourd'hui dans le domaine des services. Deux autres choses, Apple a réduit le prix du HomePod, ce qui n'est pas une chose qu'ils font souvent. Il semblerait que les ventes soient décevantes, c'est mon interprétation en tout cas. Et Netflix a supprimé le soutien du AirPlay de Apple. Alors, ils ont donné une excuse qui est, à mon sens, un petit peu bidon, en disant que maintenant qu'AirPlay est disponible sur plein d'appareils différents, et bien, ils ne peuvent pas optimiser le streaming vers les appareils en fonction de la nature de l'appareil parce qu'ils n'ont pas les infos sur ces appareils. Pareil, à mon sens, c'est un petit peu Netflix qui essaye de s'isoler d'Apple autant que possible pour garder son autonomie. Mais bon, peut-être qu'il y a d'autres explications.
Là encore, je pense que tu vois le mal partout.
tu crois que c'est vraiment une raison technique?
Ah oui, parce que surtout, tu vois, aux États-Unis, où il y a énormément évidemment d'iPhone et de gens qui font de l'AirPlay, ils ont quand même intérêt plutôt à faire en sorte que ça fonctionne. Il y a énormément de gens qui utilisent par exemple une Apple TV pour regarder Netflix. Donc, je pense que là, ils ont un vrai souci technique.
Tu as l'application sur l'Apple TV, donc c'est ça, le problème.
C'est vrai que tu peux avoir l'appli sur l'Apple TV, mais c'est vrai que tu peux aussi faire juste du AirPlay, ça marche pas mal. Je pense que de fait, ils doivent avoir ou c'est peut-être une sorte d'appel à l'aide un peu appuyé à Apple sur va falloir nous aider à implémenter ces choses-là parce que c'est vrai que tout à coup, Apple qui ouvre une norme à d'autres, c'est pas tous les jours, mais ça peut poser souci. Je pense que c'est quelque chose qui va être résolu parce que ça doit quand même poser souci à Netflix, hein. C'est-à-dire que tout à coup.
Peut-être.
Voilà,
peut-être.
Surtout au moment où AirPlay arrive sur des téléviseurs directement, enfin sur des choses qui, là, pour le coup, l'intéresseraient vraiment.
Bon, ok, encore une fois, c'est moi qui vois le mal partout, très bien.
T'as peut-être raison, hein, je voilà.
Gaël, tu as une chose à ajouter? On avance?
Avançons.
Très bien. Apple, c'est pas très intéressant de toute façon. Amazon a publié deux films sur Amazon Prime Video qui sont doublés en français avec la voix d'Alexa. Alors, ça a fait bien rire de nombreux internautes ces derniers jours. En fait, il y a deux films qui sont disponibles uniquement en doublé. Il n'y a même pas la version sous-titrée. Mais le doublage n'est pas fait par des acteurs. Il est fait, en fait, avec les sous-titres qui sont lus par Alexa et les sous-titres sont même pas disponibles, donc c'est évidemment complètement ridicule. Ça détruit totalement les films. Là où moi je vais encore chercher, alors c'est des films entre parenthèses, c'est des films argentins, c'est ça? Oui, je crois que c'est le cas. Moi, pour aller essayer de chercher une explication, je pense que il y a eu une volonté ou pas une volonté, mais quelqu'un s'est dit, on a les sous-titres et on a un truc qui peut lire le texte. pourquoi ne pas faire simplement, ne donner une option pour lire le texte à haute voix plutôt que de faire les sous-titres. Et puis ça, c'est emballé dans un truc peut-être dans l'administration de l'entreprise quelque part. Et puis ça s'est transformé en seul moyen de d'écouter le film et de doublage, alors que c'était peut-être une option pour certaines personnes qui voudraient avoir un texte lu parce qu'ils ne voulaient pas avoir la voix originale avec le texte en sous-titres. On sait que dans les pays de l'Est, par exemple, il y a beaucoup de films qui sont doublés, la plupart des films d'ailleurs sont doublés en Russie, dans d'autres pays de l'Est, avec une personne qui lit les voix de tout le monde, en fait, sur la bande-son, avec les voix originales. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui connaissait ça, qui s'est dit, bon, bref, j'en sais rien, en tout cas, c'était ridicule, et ça va être retiré. Amazon fait des AirPods like et ils font tout le monde les fait, ces AirPods, mais bon, Amazon n'a pas d'écosystème aussi simple, mais dans leurs AirPods, je sais même plus comment ils s'appellent, il y a Alexa intégré. Bref, c'est pas hyper intéressant à mon sens, il y a de meilleures alternatives. Facebook a encore perdu des données qui étaient stockées sur des serveurs d'Amazon justement, mais par des tiers, et ça c'est un truc qui était un petit peu ancien. Facebook a résolu le problème depuis. Je crois que c'est pas que Facebook n'est pas coupable dans l'histoire, vous en avez peut-être entendu parler en lisant « Ah, Facebook a encore perdu des données, qu'est-ce que ça veut dire? C'est inacceptable !» C'est pas qu'ils sont pas coupables, c'est que c'est un problème qui existait il y a longtemps d'accès à ces données, qui a été corrigé depuis et dont on a découvert un autre exemple aujourd'hui. Donc moi, je mesure un petit peu la culpabilité de Facebook là-dedans, surtout qu'ils ont déjà corrigé le problème. Et puis enfin, ils ont annoncé récemment que pendant les élections indiennes, ils supprimaient 1 million de comptes par jour grâce à une intelligence artificielle, et ils font d'autres choses pour essayer de s'assurer de l'intégrité des élections, mais 1 million de comptes par jour. Alors, je sais qu'on parle de l'Inde, que c'est un pays qui est particulièrement imposant à de nombreux points de vue, mais quand on disait tout à l'heure à propos de YouTube, ça fait une masse de travail impossible à faire à la main, effectivement, 1 million de comptes par jour, c'est compliqué à gérer à la main. Je suis sûr qu'il y aura des comptes non coupables qui seront pris dans la tourmente. Mais malheureusement, il n'y a pas vraiment d'autre solution, je crois, dans ce cas-là. Donc voilà, j'ai mis Amazon et Facebook en même temps. Je vous laisse la parole. Si Gaëlle est inspirée, elle peut commencer pour respecter l'égalité du
non, j'ai choisi tout à l'heure, donc je laisse...
D'accord.
sur Facebook... moi, j'ai du mal à chaque fois, c'est-à-dire que, tu vois, je fais des papiers pour LCI.fr là-dessus, et à chaque fois, j'ai du mal à titrer, parce que tu dis quoi, une faille de plus chez Facebook, enfin, tu vois, ou quatrième faille de la semaine, je sais pas, et au bout d'un moment, la lassitude s'installe. Alors là, oui, les données stockées en clair sur les serveurs d'Amazon, c'est des choses d'applications tierces, etc., mais en même temps, quand tes données, tu les donnes à Amazon, bah tu les donnes à Amazon, tu vois ce que je veux dire, pardon, à Facebook, tu les donnes à Facebook, donc ça pose quand même question. Je pense que c'est pas des choses qui vont s'arrêter, parce que le système a été un peu vicié dès le début, c'est-à-dire que ils sont quand même partis sur des impératifs qui n'étaient pas forcément la sécurité absolue de tes données, on va dire ça comme ça. Donc il va falloir pas mal de temps pour qu'ils arrivent à résoudre ces problèmes. En gros, ils ont quand même un gros backlog de soucis à régler. Du coup, c'est l'occasion de se demander quelles données tu as sur Facebook, mais au moins tu peux aller voir quelles données sont là, toutes les télécharger. Et ça explique aussi, je pense, la lassitude des utilisateurs qui, pour le coup, maintenant, sont plus remplacés par les jeunes générations. Moi, la maison qui m'emploie, on a fait toute une série de conférences dans des écoles dans toute la France avec des présentateurs de JT, etc., pour parler de l'information, des médias, de tout ça, et de l'éducation aux médias. Et le patron de l'info ici, Thierry Tullier, à un moment a posé la question à des gens, à des lycéens, en leur disant: où est-ce que vous vous informez? Vous êtes connecté à quoi? Vous lisez quoi? Où est-ce que vous allez? Donc il y a plein de gens qui disent: je m'informe sur Instagram. Ok. non, mais c'est une source parmi d'autres. Est-ce que vous êtes sur Twitter? Ouais, absolument. Vous êtes sur Snapchat? Alors, il y a encore des mains qui se lèvent. Vous êtes sur Facebook? Zéro main. Ah. Donc, on comprend la révolution annoncée par Mark Zuckerberg, qui en gros voudrait que Facebook devienne WeChat. Et je pense que là aussi, les problèmes tels qu'ils sont aujourd'hui vont se régler comme ça.
Et il y a quand même beaucoup de gamins qui ne savent même pas qu'Instagram. Ils disent, bah non, moi je ne donnerai pas mes données à Facebook, je vais sur Instagram.
Moi, je prends que Instagram et WhatsApp.
Oui, exactement. Ouais.
Donc la problématique va être similaire de toute façon sur les données.
Bon, bah écoutez, je pense qu'on arrive au bout de cet épisode. Un dernier petit truc, Corben a écrit un livre, c'est son premier livre, et Corben est bien sûr un participant et un ami de l'émission. C'est assez ironique parce que Corben, qui est l'un des plus grands blogueurs tech du pays, a écrit un livre sur les moyens de se libérer de son addiction au smartphone. Donc, vous pouvez le trouver sur toutes les plateformes, bien sûr. Il s'appelle « Libérez-vous de votre smartphone et reprenez votre vie en main », écrit par Corben. Je trouve ça assez intéressant. Et si vous voulez savoir comment il a fait pour se libérer de son smartphone, c'était vraiment une démarche personnelle, vous pouvez aller récupérer ce livre. Et pour savoir comment fait Cédric Ingrand pour être l'un des plus grands journalistes tech du pays, vous pourrez aller le suivre par exemple sur Twitter. Mais peut-être ailleurs.
L'espace d'un instant, j'ai cru que j'avais écrit un livre. Attends.
Mais peut-être à un moment. Dis-nous, on peut retrouver pour savoir si à un moment, enfin, tu auras écrit un livre.
Mais @Cédric sur Twitter, lci.fr dans la rubrique tech, où il y a de très bons papiers, des choses très très bien en ce moment. Je ne vous l'ai pas dit, mais le papier sur l'AZERTY est un carton absolument intersidéral.
Ah oui,
mais en même temps, c'est vrai, te dire attention, ton clavier AZERTY va changer, c'est extrêmement concernant, comme on dit. Mmh. Et puis à l'antenne d'LCI, au moins le samedi matin dans la matinale, week-end, avec tous mes amis de la matinale à 7h50, si vous êtes debout à cette heure-là.
On l'est avec nos enfants.
Oui, c'est ce que j'allais dire. Mon premier réflexe aurait été de te dire oui, bien sûr, évidemment. Et puis je réfléchis une demi-seconde et je me dis ah bah si, en fait, oui, d'accord, très bien.
Un seul enfant suffit être debout à 7h tous les matins. C'est vrai.
Exactement. Gaël, pour toi, où peut-on te retrouver?
Alors, si pour moi c'est @gmgirardo ou pour Coud, c'est @Coud. Donc Coud, c'est COOD_FR sur Twitter ou sur nos pages Facebook, parce qu'on est quand même encore sur Facebook.
Malgré tout.
Malgré tout, effectivement, voilà, pour savoir l'éducation aux médias et justement suivre un peu toutes ces infos-là.
Magnifique. Donc, c'est effectivement, tu le dis très rapidement, mais je vais le préciser, c'est effectivement c'est une société ou une association ?
Non, c'est une société.
C'est une société.
C'est une société, voilà. C'est une plateforme d'éducation au numérique.
Exactement. Voilà. Qui travaille notamment pour l'éducation chez les plus jeunes avec tout un tas d'instances différentes comme des écoles, l'éducation nationale, etc.
Exactement.
Merci à vous deux. Pour ma part, c'est NotePatrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Vous pouvez aussi retrouver cette émission sur frenchspin.fr et vous pouvez venir commenter tout ce qu'on a dit aujourd'hui et on vous retrouvera dans une semaine à peu près pour un nouvel épisode. N'oubliez pas en attendant que vous pouvez soutenir l'émission sur patreon.com/rdvtech. Si vous écoutez depuis, on va dire, si vous venez de commencer à écouter, vous avez un mot du prof, vous n'êtes pas concerné. Si vous écoutez depuis 6 mois, je dirais, posez-vous la question. Je ne dis pas forcément, depuis 6 mois, 1 an, et que vous écoutez régulièrement, je ne dis pas, il faut absolument que vous souteniez l'émission, bien sûr. Mais par contre, je dirais, posez-vous la question. Est-ce que j'aime bien l'émission? Est-ce que je suis content de l'avoir arrivé en début de semaine et je me dis, ah cool, mes transports vont mieux se passer parce que j'ai l'émission? Et bien, dans ce cas-là, peut-être dites-vous, elle a un petit peu de valeur pour vous et posez-vous la question de vous dire, est-ce que vous voudriez la soutenir? C'est sur patreon.com/rdvtech et le lien est dans les notes de l'émission. On vous remercie de nous avoir écoutés et on vous donne rendez-vous dans une semaine. Ciao à tous! Et donc voilà, comme prévu, les messages des patriotes auxquels j'ai dit il y a quelques jours de ça. Je vais vous proposer de nous parler de ce que vous voulez. Peut-être que vous voulez dire quelque chose sur l'émission, peut-être que vous avez une recommandation, ce que vous voulez, vous pouvez m'envoyer un petit message et je le passerai dans le prochain épisode. Et quatre d'entre eux, Aurélien, Arthur, Gwil et Pascal, ont envoyé des messages que je vous livre maintenant avec quand même mes petits commentaires. Alors je fais ça en direct, donc on va voir si ça va passer. D'abord le message d'Aurélien qui nous parle, qui nous donne une recommandation.
Bonjour, je m'appelle Aurélien et je voudrais vous parler d'un livre qui s'appelle « Les ingénieurs du chaos » de Giuliano D'Ampoli, qui est publié aux éditions Jean-Claude Lattès. C'est un livre qui parle de façon dont la tech, et tout particulièrement les réseaux sociaux et la collecte de données informatisées, permet à des groupes politiques, et notamment des groupes politiques extrémistes, de cibler des messages politiques sur certaines catégories de personnes afin de gagner des élections. Le livre prend pour exemple le mouvement 5 étoiles en Italie, l'élection de Trump aux États-Unis et le vote du Brexit en Angleterre. C'est vraiment très bien écrit, c'est détaillé, notamment avec une section sur l'utilisation de la communauté des gamers, qui est très intéressante. C'est vraiment un sujet important parce que c'est de la tech qui touche de très près de l'avenir de la politique, et ça a un impact sur nos vies à tous. Bon, écoutez, allez lire le bouquin si ça vous intéresse, et sinon, ça serait peut-être un sujet intéressant pour un débat sur podcast. Allez, ciao.
Alors effectivement, La théorie du chaos, livre qui a l'air hyper intéressant, je vais peut-être voir si je trouve le temps d'y jeter un petit coup d'œil. C'est vrai que c'est un sujet qu'on a beaucoup évoqué dans l'émission par le passé, et au-delà du fait qu'on sache que c'est important, peut-être que le fait de comprendre la manière dont ça fonctionne un petit peu plus que ce qu'on connaît peut-être un petit peu tous ou certains d'entre nous qui sont plus au fait des détails de ce genre de choses connaissent un petit peu mieux, mais avoir une étude précise et j'imagine factuelle de la chose pourrait avoir une vraie valeur pour la compréhension de la manière dont sont gérés tous ces réseaux. Donc ça s'appelle « La théorie du chaos ». C'est bien ça, hein, je dis pas de bêtises. Attendez, je vais rejouer le début du message.
Bonjour, je m'appelle Aurélien, oui, je voudrais vous parler d'un livre qui s'appelle « Les ingénieurs du chaos ».
Ah, les ingénieurs du chaos. Heureusement que j'ai rejoué. Les ingénieurs du chaos, pas la théorie du chaos. Merci Aurélien. On continue avec le message d'Arthur.
Bonjour Patrick et bonjour aux auditeurs. Merci Patrick de nous donner l'opportunité de partager quelques pensées à la communauté du Rendez-vous Tech. De mon côté, j'aurais deux choses à dire. La première, c'est que je prends toujours autant de plaisir à écouter l'émission après 5 ans. Alors, je te souhaite donc le meilleur pour les 5 prochaines années, que ce soit en mode artisanat ou start-up. La seconde est finalement plus issue d'une envie d'intervenir à chaque fois que le sujet se présente dans l'émission. Les grosses plateformes abusent-elles de leur position dominante? Apple, par exemple, impose sur son store ses règles et ses contraintes aux développeurs qui bénéficient en retour d'un marché sur lequel vendre leurs produits ou services. Bon, avec une grosse commission, mais jusque-là, ça reste honnête à mes yeux. Le souci, c'est qu'Apple change et se positionne aujourd'hui en tant que fournisseur de services intégrés. De fait, Apple peut concurrencer les fournisseurs historiques de ces 10 services par une intégration hardware, software et marketing bien plus avancée. Est-il normal que musique d'Apple soit nativement installée sur un iPhone ou sorte premier d'une recherche App Store? Est-on en situation d'abus? Je ne saurais le dire d'un point de vue juridique, mais j'ai le sentiment que les lignes vont devoir bouger pour conserver un marché sain. Qu'en pensez-vous?
Ah, merci Arthur pour ton message, on sent que tu avais écrit ton texte et c'est bien parce que tu t'es tenu à une minute et puis il y avait beaucoup de choses que tu as dit dans cette minute. J'aime beaucoup la manière dont tu dis les choses. C'est une... D'abord, tu poses le problème avant qu'Apple n'entre dans ce marché eux-mêmes et c'est vrai que c'est a priori moins problématique. Et j'avoue que quand on en a parlé dans l'émission juste maintenant, j'avais ça à l'esprit aussi, ton message à l'esprit aussi, parce que c'est vrai qu'une fois qu'ils sont dans ce domaine, eh ben ils ont toute une force de frappe que n'ont pas ceux avec qui ils rentrent en concurrence. Et c'est le problème qu'a mis en avant Spotify, et dont on parlait, je crois, la semaine dernière. C'est un problème qui est clairement là. La question, c'est comment le résoudre, parce qu'on a vu ce problème qui se posait, par exemple, avec Windows Media Player ou Internet Explorer dans Windows il y a plusieurs années de ça. Et on s'est rendu compte que c'est hyper difficile à résoudre, parce que même quand on a intégré la mosaïque, là, le carrousel pour choisir le navigateur, eh ben, ça, c'est pas ça qui avait eu un impact, c'était l'arrivée de Chrome qui était un meilleur navigateur. Quand on a demandé à Windows de vendre une version sans le Windows Media Player, ils l'ont vendu au même prix que l'autre, que la version normale, donc forcément tout le monde a choisi la version qui intégrait Windows Media Player. C'est pas évident. Et c'est vrai que ça peut être un problème pour Apple. J'ai pas non plus la réponse, je suis un petit peu comme toi, mais la question est importante à poser, je dirais. Donc, écoute, c'est bien, on le gardera à l'esprit pour la suite des discussions. Le message de Gwil maintenant.
Salut Patrick, c'est Gwil. Juste un petit message pour te dire merci. Merci pour la qualité de tes émissions que tu nous distilles depuis plus de 10 ans, qui accompagnent parfaitement les moindres temps morts de nos vies trépidantes. Merci encore d'être toujours fidèle au poste et je te souhaite une bonne continuation et tout plein de projets pour l'avenir.
Merci Gwil, c'est très gentil de ta part. J'apprécie beaucoup ce petit message. J'ai dit, vous pouvez dire ce que vous voulez, hein, mais donc voilà, Gwil a choisi de me remercier pour l'émission. Eh bien moi, en retour, je remercie tous les auditeurs et surtout tous les patriotes qui permettent à l'émission d'exister. Donc finalement, en fait, ce que Gwil est en train de dire, c'est pas merci à Patrick, c'est merci à vous tous les patriotes qui choisissez de soutenir l'émission et de faire en sorte qu'elle puisse arriver jusqu'aux oreilles de Gwil et jusqu'à vous tous également. Donc voilà, merci Gwil et merci à vous. Et enfin, Pascal, qui a un petit peu dépassé des limites. J'avais dit une minute le message, lui c'est un message de presque 4 minutes. L'ironie dans tout ça, c'est que Pascal est prof. Donc, je vous laisse apprécier la manière dont il reçoit un traitement de faveur de ma part, comme je lui disais en réponse à son message. En général, je vous demanderai quand même de vous limiter à la minute, mais bon, allez, c'est la première. Pascal, voilà son message.
Bonjour Patrick, bonjour les Patreons, bonjour l'ensemble des auditeurs et co-animateurs. C'est un réel plaisir de pouvoir communiquer avec vous par médias interposés et plus particulièrement sur un sujet qui me tient à cœur qui sont les Smart Cities. Alors je me présente, je m'appelle Pascal Simons, je suis architecte urbaniste de formation à la base. Je suis actuellement professeur à l'université de Mons en Belgique et je suis, attention c'est un gros mot, expert en Smart Cities, ville intelligente. Dans ce contexte-là, en fait, j'aurais aimé soulever la question de la Smart Cities, mais plus généralement en fait de la 5G dans l'histoire de l'émission Rendez-vous Tech. En effet, comme tu le dis toi-même, Patrick, la question de la tech a fortement évolué en 10 ans. Je me souviens des émissions de début où on parlait de l'arrivée du dernier Samsung et la compétition avec les iPhones, ou encore la bataille en hardware entre Mac et PC. Et aujourd'hui, en fin de compte, cette question est vraiment secondaire. Tout ce qui est hardware passe presque en back-office par rapport à la question de tout ce qui est service et développement de ceci, ce qui est tout à fait logique, on est dans cette ère du temps-là. Toutefois, je voulais rappeler ou signaler que la 5G, même si on s'en accommode assez facilement et on s'imagine que ça va être la continuité de la 4G et des autres systèmes de téléphonie mobile, va profondément modifier en fin de compte nos usages à l'échelle de la ville. Dans ce contexte-là, on va réutiliser en fait du hardware de manière phénoménale. Et je ne prendrai qu'un seul exemple, c'est entre autres la voiture autonome qui, les Tesla et Mercedes et BMW sont déjà autonomes et attendent que la 5G arrive pour vraiment être implémentée dans la ville, ce qui va, vous en doutez tous, vraiment modifier en fait nos usages. Et donc la relation entre l'hardware et le software va profondément s'intriquer l'un dans l'autre. Et je trouve que ce sujet, avec le regard critique que l'ensemble des invités ont fréquemment, et c'est ça qui me plaît dans votre émission, fait que ce sujet me semble nécessaire à être traité, et en amont, puisque ne soyons pas en retard. Nous avons déjà l'ensemble du territoire coréen qui vient à l'instant, deuxième semaine d'avril, être implémenté et lancé en 5G. Comme d'habitude, les Coréens sont à l'avance. Mais également, des villes américaines sont en avance sur leur planning et des villes comme Indianapolis, par exemple, sont maintenant couvertes par la 5G. D'autres villes comme San Diego sont pionnières en la matière également. Alors, ça va arriver chez nous bientôt. Réfléchissons-y dès maintenant, ou en tout cas, discutons-en dès maintenant. Ça pourrait être intéressant pour ne pas mourir idiot. En tout cas, merci pour me laisser mon expression libre. Et si vous voulez me retrouver, simplement allez sur mon blog numérique avec C, landscape.org. À bientôt.
Merci, merci Pascal pour ton message. Alors, on a parlé un tout petit peu de 5G dans l'épisode et c'est vrai que je pensais là aussi à ton message, l'actualité a été bien faite. C'est vrai qu'on est un petit peu moins, comment dire, on pense que ça va arriver un petit peu moins vite que toi, mais c'est vrai qu'on parle finalement de 2 ans, je pense. Ça va commencer à devenir plus commun d'ici 2021 peut-être. Courant 2021, on en parlera sérieusement de la 5G, je crois. Et c'est vrai que c'est important de se poser les bonnes questions avant que la chose soit devant notre porte. J'ai l'impression qu'on le fait un petit peu quand même dans l'émission. À un moment, je crois pas encore tout de suite, mais à un moment, il serait peut-être intéressant de faire un épisode spécial 5G. Ça serait une question intéressante à traiter pour vraiment comprendre évidemment la technologie, mais aussi les implications. Et sur ce point, je crois qu'on est encore un petit peu trop dans la spéculation avec les applications qu'on imagine, et souvent l'imagination ne correspond pas à ce qui se produit vraiment. Donc je me demande si c'est pas encore un petit peu tôt pour cette question des applications. La technologie, bien sûr, elle est maintenant dans le dur, mais bon, c'est effectivement une chose à garder à l'esprit. Et là encore, il faut savoir que ça va pas juste être une technologie, mais que ça va avoir des conséquences sur les usages, et ça c'est important à retenir. Donc voilà, merci aux Patriotes qui ont choisi d'envoyer des petits messages. Peut-être que je referai un truc du genre, une demande de ce genre-là à l'avenir. Je trouve que moi, ça m'a paru bien sympathique de parler avec vous comme ça et puis d'écouter les messages et d'y répondre en direct. Peut-être qu'on fera un truc comme ça. Si c'est le cas, c'est évidemment sur Patreon que je mets un message qui s'adresse aux Patriotes pour leur proposer de m'envoyer les fichiers. Donc, pas la peine de me les envoyer par d'autres biais. Hein. C'est vraiment, je veux garder les choses en ordre. Chaque chose est à sa place. Je suis très Marie Kondoïen dans ce type de d'organisation, parce que sinon je m'y retrouve plus. Donc faisons ça de cette manière. Si ça vous a plu, si vous avez des choses à dire, bien sûr vous pouvez mettre des commentaires sur l'article Patreon ou autre sur le blog frenchspin.fr de cet épisode, et puis on continuera à penser à la manière dont on peut continuer à interagir. Je pense qu'il y a encore des choses à faire et des choses très sympathiques. Merci à vous tous d'avoir écouté l'épisode et on se retrouve donc très très vite. Ciao à tous.